hablando de un Ismael Ocasa de Gandal. Je réfute totalement cette
étude. Moi, c'est Céline de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux pratiques de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi. Dans un rapport publié par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, sur l'exécution du budget de l'État 2014, il se dégage une faible mobilisation des recettes. L'organisation redoute des détournements, mais aussi une répartition inéquitable des ressources publiques entre différentes institutions publiques. Certains observateurs estiment qu'au regard du projet de budget 2016, chiffré à environ 9 milliards de dollars américains, les différentes lignes de crédit allouées aux institutions du pays, la plus grosse part revient aux services généraux de l'administration publique, soit 39,62% du total. Comme par le passé, cette situation relative au détournement risque de perdurer. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Merci à Sylvain Matundou qui assure la mise en onde de ce programme. Philippe Zabongonda est au standard. Pierre Lamégi réalise ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision éditoriale de Martin Sebou Djangwe. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous allons prendre le premier auditeur qui est en ligne, Maître Trésor Likonda, qui est à Kinshasa. Maître Trésor, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, Maître Trésor.
Bien, merci beaucoup. Je félicite la Likoko pour son rapport, puisque par moment, on ne doit pas oublier que dans notre pays, se pose un problème réel de la corruption. Et la corruption a ses caractéristiques, notamment le clientélisme, le népotisme, les dessus des tables, et il y a également les détournements. Mais ici, la Likoko n'a choisi que les détournements. Et quand elle dit qu'elle redoute les détournements par rapport à l'exécution du budget, où on ne voit pas, on ne sent pas l'impact même des recettes mobilisées chaque année dans les sociétés des Congolais, moi je crois que la Likoko n'a fait que rappeler aux Congolais ce qu'ils sont en train de vivre au jour le jour. Mais comme partout à travers la République, on a beaucoup plus parlé des détournements, moi j'attendais de la Likoko un peu de précision, puisque le problème des détournements commence à devenir un casse-tête pour les Congolais. Souvent, quand on dénonce les détournements, on n'arrive pas à identifier les auteurs. Et lorsque, par moment, on arrive à saisir la justice contre certaines personnalités choisies de manière isolée, la justice aussi est butée à un problème de preuve. On n'arrive pas à...
Oui, Trésor. C'est vrai, la crainte de l'organisation, c'est de se retrouver dans la même situation qu'on a connue donc en 2014-2015 pour ce budget 2016. Mais il y a quelque chose de très important qui a été relevé dans ces rapports, c'est la faible mobilisation des recettes et la répartition inéquitable de ressources publiques entre différentes institutions publiques. Donc, partant de ces deux constats, d'aucuns en fait concluent que c'est difficile parce qu'il n'y a pas un mécanisme de contrôle pouvant faire réellement le suivi hein, de la dépense. Donc, tracer comme il faut les dépenses publiques.
Bien. La faible mobilisation des recettes est un problème. Les détournements en est un autre. Mmh. Le contrôle aussi, c'est un problème réel dans l'exécution du budget. Nous savons que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui vote le budget et c'est le Parlement qui autorise au gouvernement d'exécuter le budget. Et c'est toujours le Parlement qui a le pouvoir de contrôler au début, au cours de l'exécution et même à la fin de l'exercice budgétaire. Bon, si la LICOCO a constaté qu'il y a la faible mobilisation des recettes, moi je veux revenir sur le Parlement, puisque le Parlement, quand il vote le budget, il vote le budget en recettes et en dépenses. En recettes, quand on va contrôler, on va vérifier si, et seulement si le gouvernement était en mesure de mobiliser les recettes votées dans ce budget-là. Et c'est cela qui permet même de comprendre si le gouvernement était performant ou pas. Et bien, pour comprendre qu'il y a une faible mobilisation des recettes, c'est qu'à ce moment-là, le gouvernement n'a pas été performant, d'où le Parlement devrait sanctionner. Mais dès lors que le Parlement ne sanctionne pas, ça suppose que le peuple congolais, par le canal de ses représentants, a accepté la manière dont le gouvernement a mobilisé les recettes. Maintenant, le vrai problème ici dans les rapports de la LICOCO, c'est le détournement, en fait. Le problème des détournements...
Voilà, merci.
C'est un problème qui devient de plus en plus une fiction. On ne connaît pas l'origine de ces détournements, on ne connaît pas les auteurs, on ne sait pas poursuivre au niveau de la justice.
Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor. Merci beaucoup, Maître Trésor, pour vous. Les détournements deviennent une fiction parce que l'impunité continue toujours à battre son plein. On ne sanctionne pas, c'est vrai qu'on dénonce, mais il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent correctement. Merci beaucoup. Fabrice, vous êtes à Likasi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jure, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en Internet à ce moment.
Voilà, Maître Trésor a évoqué beaucoup des choses en faisant donc les commentaires par rapport à ce rapport de l'ICOCO qui évoque la faible mobilisation des recettes ainsi que la répartition inéquitable des ressources publiques entre différentes institutions. Donc, on parle aujourd'hui des institutions budgétivores, le Parlement, la présidence ainsi que le gouvernement. Est-ce que vous partagez cet avis, Fabrice?
Oui, je partage parfaitement la proposition de déclaration de maître Likonza qui vient de parler. Oui, en fait, nous sommes dans un pays où chaque année nous avons du rapport dans le sens de corruption, tout ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que le pays a déjà pris un système là, déjà installé. Donc, vous verrez que ceux qui sont au pouvoir sont considérés comme des voleurs par ceux qui dirigent pas. Et après, si les autres affaires ne sont pas, ils vont se comporter de la même manière que ceux qui étaient au pouvoir. Tout ça, c'est parce que c'est déjà un système qui s'est déjà installé et ça complique même le bon fonctionnement des institutions. Donc, vous verrez que nous n'avons pas à bien mobiliser les ressources. Donc, le budget est nul et puis c'est mal exécuté. Tout ça, c'est un système qui est installé. Vous comprenez que monsieur dit que la population n'aime pas de convoiture, tout. Moi, je me rappelle, avant, on était étudiant. Donc, on savait que si tu termines les études, tu auras un emploi et tu auras quand même une maison de l'État ou d'une société. Par exemple, ici, on s'attendait que des familles qui faisaient de l'emploi. Et là, quand quelqu'un travaille déjà dans de bonnes conditions, il occupe une bonne maison, il a quand même une voiture du travail, il travaillera un peu avec lui. Mais quand quelqu'un, il faut pouvoir, il faut s'acquitter, deux, trois mois, quatre mois, et puis il voulait se construire une maison, tout, c'est tout compliqué là. C'est déjà un petit peu. Les gens savent. Vous verrez que, en termes de si les moments tels, après 6-4 mois, il sera ça. S'il ne fait pas, on dirait que non, c'est tellement le monsieur ici, on ne sait pas si il est comment, il a été nommé tel, mais il n'a rien du tout. Donc, c'est déjà un mauvais système qui est installé au pays, et rien ne peut changer. Et le jeune voit, pourquoi pas, c'est lui. Une fois quelqu'un voit qu'un monsieur a été nommé, un monsieur a été mis quelque part, dans peu de temps,
Alors Fabrice, alors, quel est le commentaire que vous faites particulièrement par rapport à ceux-là qui disent qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est pratiquement le détournement est une fiction, comme pour dire aussi, le budget c'est une fiction.
Oui, donc, c'est déjà un problème. Le problème maintenant, c'est de prendre conscience. On prend conscience, mais la conscience,
c'est que la justice. Vous ne jamais mettre
là, on a un peu à analyser un peu la condition et diminuer un peu le.
Oui.
Le fond de.
Merci beaucoup. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
On va faire des analyses avec vous, Michel Somboy, analyste des questions économiques, également Irma et Lula, vous êtes également analyste des questions économiques. Michel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Voilà, vous venez de suivre des auditeurs qui ont parlé tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, d'une part, il y a cette fiction qu'on peut en fait qualifier le détournement et aussi aller plus loin pour dire le budget en soi dont on parle aujourd'hui, c'est aussi une fiction.
Ben oui, je crois que d'entrée de jeu, je voudrais commencer par féliciter Lali Coco pour son courage, parce que Lali Coco n'a pas inventé des faits. Lali Coco n'a pas inventé un document, elle a fait la lecture d'un document officiel qui est courageusement aussi venu de la part du gouvernement. Il faut aussi féliciter le gouvernement pour cette preuve de transparence. Et je crois que ce que Lali Coco dit, moi personnellement, depuis plus de 10 ans, je répète les mêmes histoires sur vos chaînes de radio, de télévision et dans mes livres. Il est un fait que quand on parle de la fiction, du budget comme fiction en RDC Congo, il vous souviendra que dans plusieurs de mes interventions, j'ai toujours dit que le budget de la RD Congo est un budget chétif. C'est le mot que j'ai souvent utilisé. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays comme celui-ci, 2 345 418 km², 79 millions d'habitants, près de 80 millions déjà d'ailleurs, que nous puissions avoir à ce jour un budget de moins de 10 milliards de dollars. Que nous puissions avoir, pour être plus sérieux, un budget de moins de 300 milliards de dollars. Ce n'est pas correct. Il y a un problème. Surtout que la RD Congo est un pays aux dotations naturelles les plus convoitées, les plus enviées du monde. Quand je parle de dotations naturelles, je ne parle pas de richesses potentielles, je parle de richesses réelles. Parce que l'eau du fleuve Congo, qui est devenue une denrée rare à travers le monde, qui est recherchée, qui est payé cash par les autres, l'eau, ça se paye cher en Israël. L'eau se paye cher dans beaucoup de pays, y compris dans les pays africains. L'eau est recherchée au Tchad et partout ici. Chez nous, c'est une réalité, ce n'est pas une potentialité, c'est une richesse réelle. Il y a un problème d'organisation pour lever des fonds à partir des ressources comme celle-là. La forêt, on a parlé du COP21, etc., ce sont des richesses réelles. Ce ne sont pas des richesses potentielles. Mais comment on peut manquer d'intelligence pour faire de ces sources de revenus, des sources effectives de nos revenus, et doter ce pays d'un budget qu'il mérite? Comment vous pouvez accepter, hier, qu'un pays comme le Luxembourg, qui entre 20 fois du point de vue de la population dans la seule ville de Kinshasa, 20 fois dans la ville de Kinshasa, que ce pays-là puisse avoir un budget de 25 milliards de dollars pour 2000 km², s'il vous plaît? C'est-à-dire qui entre 5 fois dans l'étendue de la ville de Kinshasa et 5 fois du point de vue démographique, mais qui a un budget de 25 milliards de dollars et que la RD Congo a un budget qui peine à dépasser 5 milliards de dollars, il y a quand même ce qu'il faut appeler.
Voilà.
Budgétaire.
Oui, mais Michel, il y a un invité qui est dans ce studio, Urbain Ilouga, qui est à la liste des questions économiques, qui pourrait également vous compléter par rapport à ce budget fiction, parce que vous êtes, un des enseignants à l'université populaire.
Ouais.
Alors, par plusieurs fois, vous êtes revenu sur les Congos et l'État sans budget.
Les Congos et l'État sans budget, c'est une réalité. Parce que lorsque nous en avons parlé, il y avait certains qui disaient qu'on est allé au-delà quand des autres pays arrivaient. Mais aujourd'hui, on comprend que cela nous donne raison. En réalité, c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Moi, je me dis, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus, on est devant un paradoxe. D'un côté, nous avons des performances économiques qui sont louées à travers le monde. De l'autre côté, nous avons ce débat. Donc, nous avons l'un des débats portant sur la faible mobilisation de recettes et l'autre sur ces débats fictions. ça ne devrait pas valider. Donc, c'est cette contradiction. Moi, je me dis, le sens économique, c'est une sanction qui rime avec la mobilisation de recettes. Lorsque l'économie va, et donc, la mobilisation des recettes est aussi naturelle. Elle va aussi. Et nous vivons dans un pays où nous avons cette contradiction. Et ici, je vais dire, tout simplement parce que on veut voir du vert là où il y a du rouge. Moi, pour dans l'introduction, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire que nous devions prendre conscience. Nous devions prendre conscience pour être plus sérieux parce que le problème de ces pays est crucial. Et nous sommes en train d'aller vers le pire. Nous devons prendre conscience. En lieu place de nous faire de flair, il faut indexer les problèmes. Les problèmes de l'air, il y en a.
Alors, les problèmes aujourd'hui avec la mobilisation, la faible mobilisation des recettes, c'est à quel niveau?
La faible mobilisation des recettes, vous comprendrez que dans une map de Trilin, où l'honorable Mouzito préconisait à ce qu'on essaye aussi de tendre la main vers l'extérieur. Bon, avant d'y arriver, moi je penserais que la faible mobilisation des recettes au niveau interne est liée par le fait que d'abord, l'économie que nous avons. Hein, n'est pas celle qui est chantée. En réalité, l'économie que nous avons, je vous poserai une question, nous avons un budget près de 40 milliards de dollars, mais nous avons un PIB près de 40 milliards de dollars, mais nous avons un budget de 8 milliards. Vous voyez le cas. Donc, le performance perd qui sont chantées. Donc, en réalité, la faiblesse de mobilisation de recettes est liée à notre incapacité dans la conversion de nos richesses potentielles en des richesses réelles. Je salue l'argumentation de
Michel Sauvoy.
Je suis aussi d'accord avec lui. Quand tout de même, bien que l'eau que nous pouvons avoir, les forêts que nous avons, les richesses souterraines que nous avons. Bon, certains qui croyant qu'ils sont encore potentiels, je crois que qu'elles ne sont pas entre nos mains. Il faut que nous soyons capables de le convertir. Et notre capacité de conversion de cette richesse, de cette dotation naturelle en richesse réelle est encore très faible.
Alors, on va voir comment on va changer les choses. Maître Adrien est à Kananga, Emmanuel Ilunga à Paris. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour. Maître Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, JR.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
Oui, je salue, JR, les deux invités, ils font des analyses correctes. Mais moi, je me suis toujours posé des questions de savoir, JR, comment pouvons-nous mobiliser des recettes lorsque nous avions une économie qui ne produit pas, lorsque nous avions une économie totalement extravertie. Comment voulez-vous que nous puissions mobiliser des recettes lorsque nous avons une population sans culture fiscale? Comment voulez-vous que nous puissions mobiliser des recettes lorsque nous avons des autorités qui ne veulent pas, qui n'ont pas cette volonté-là de faire maximiser des recettes? Comment voulez-vous que nous puissions maximiser des recettes lorsque on ne parvient pas à encourager ceux-là qui s'adonnent sur le terrain pour maximiser ces recettes-là? Donc c'est autour de toutes ces questions-là que les problèmes se posent dans notre pays. Mais moi je pense que l'une des pistes de solution, JR, est qu'il faut d'abord commencer par produire, parce que nous avions beaucoup d'espace et ces espaces-là chôment. Et puis, deuxièmement, avec le faible de notre mobilisation, mais si on canalisait ça, parce que cette mobilisation-là, c'est dilapide à gauche, à droite. Au lieu que cet argent-là entre dans le compte du trésor, mais ça entre dans le compte, donc, dans les poches des individus. Je vous donne un cas ici avec notre impôt de la TVA. Beaucoup de gens, cette taxe-là est coupée à la source. Pouvez-vous dire combien d'opérateurs économiques déclarent ou bien versent cette TVA-là pour les comptes du trésor? Et de ce côté-là, il n'y a pas de suivi. Donc, moi, je pense que c'est un effort à fournir par tout le monde et surtout par ceux qui ont la gestion de la chose publique pour donner l'impulsion. Et je suis dit aussi Michel Chaumont. Il a donné les cas, donc, de certains pays. Oui, mais ces pays-là, en commençant, parce que lorsque vous prenez le pays qu'il a donné comme exemple,
mais ce sont des pays qui vous produisent. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous produisons? C'est là que j'ai il faut commencer avant de revenir sur ce que nous déplorons.
Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de la production. Il faut booster quand même le niveau de la production. Est-ce que, Urbain, vous partagez cet avis, Urbain?
Effectivement, il faut booster le niveau de la production. Nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas. Et c'est parce que nous n'avons pas une économie que nous devons créer. En réalité, nous n'avons pas une économie. Nous devons créer une économie, parce qu'en réalité, l'économie de la RDC, une économie où vous avez parmi les trois secteurs, d'ailleurs, il y a un qui nous n'avons pas. Nous avons un secteur primaire, tertiaire, voilà, nous avons un secteur primaire totalement extraverti, ou qui est fondé sur l'extraction de matières premières. Vous avez de l'autre côté un secteur tertiaire, et totalement aussi extraverti, avec un commerce porté vers l'extérieur. Au milieu, vous n'avez rien. Nous n'avons pas une industrie. Donc, les secteurs secondaires est inexistant en RDC. Et donc, moi, je me dis, avec notre secteur industriel quasiment embryonnaire, qu'est-ce que ça peut produire? Nous devons créer une industrie. Nous devons diversifier notre économie. Nous avons une économie totalement axée sur le minerai. Donc, en d'autres termes, moi, je me dirais, excusez-moi pour le mot, nous serons encore comparés comme à un peuple barbare, parce que le peuple barbare, c'est celui qui est en communication avec la nature, totalement avec la nature. Plus de 70% de notre population vit de la nature, et notre économie formelle vit de la nature. Nous devons cesser de vivre de la nature, vivre de la transformation. Nous avons un secteur qui a connu des réformes. Bien sûr, je salue toutes ces réformes de 2002, le secteur minier, le secteur minier. Mais seulement que ces réformes n'ont pas pu permettre à la nation de soutirer du profit issu de ces investissements. Parce qu'à mon avis, moi je pense que tout investissement génère deux catégories de faits. Il y a des effets financiers qui intéresse l'entrepreneur, mais il y a aussi des effets socio-économiques qui rémunèrent la communauté immédiate. Mais quant aux effets socio-économiques, il y a trois canaux de transmission par lesquels ces véhicules, les effets socio-économiques jusque dans la communauté immédiate. Il y a l'emploi, il y a la fiscalité, il y a les externalités diverses. Mais alors, le canal de l'emploi a été pratiquement verrouillé avec ces nouvelles réformes. A été pratiquement verrouillé. Oui. Le canal de la fiscalité, l'État congolais gagne moins proportionnellement à ce qui est produit aujourd'hui dans les secteurs miniers. Et le canal de la fiscalité aussi, il n'y a pas de création de valeurs ajoutées. Tout ce qui est produit est rapatrié tout de suite vers l'extérieur à cet état-là. Donc nous n'avons pas une économie. Nous avons une économie avec une monnaie pratiquement et qui ne jouit pas de ses fonctions.
Alors on va voir si Michel Sombré, vous êtes avec nous?
Je suis en ligne.
Alors comment faire, Michel?
Oui, mais je voudrais revenir sur deux petites choses dont parle Urbain. Il a dit une chose qui est essentielle, et j'ai toujours dit ça avec vous, vous savez, notre économie est à créer, elle n'existe pas encore, ça c'est important. Mais cependant, lorsqu'il dit que le problème que nous avons, c'est celui de convertir le potentiel en richesse réelle, j'ai dit non. Le problème que nous avons, c'est celui de nous approprier nos ressources naturelles. Nous devons nous les approprier. C'est ça notre problème. Parce que le cuivre, quand les Chinois viennent le prendre, ils prennent le cuivre et ils deviennent richesse pour eux immédiatement. Ça leur appartient. On ne va pas dire que quand c'est Congolais, c'est potentiel, quand c'est les autres qui prennent, quand c'est une richesse réelle. Nous devons nous l'approprier, notre ressource naturelle. C'est le problème que nous avons. Nous devons nous l'approprier justement à travers des mécanismes de création d'une économie nationale. Je suis le mot national pour la énième fois. Nous devons, moi, je réfléchis beaucoup quand j'entends souvent des gens s'en prendre à la réalisation de Mobutu des années 73-74. Moi, je crois que ce monsieur avait vu loin, mais on n'avait pas compris ce qu'il était en train de faire. Il n'a pas eu de bons collaborateurs pour concrétiser cette idée qui était géniale. Il n'y a aucune économie au monde qui peut mettre ses ressources à la disposition des autres, que les autres en profitent et que ses propres nationaux en pâtissent. Parce que ce que nous faisons au Congo, c'est que nous pâtissons de nos richesses. Nos guerres et autres, les guerres et autres nous sont attirées par le fait que nous sommes riches. Et ça, c'est un problème que nous ne pouvons pas réparer lorsque nous allons multiplier nos intérêts. Comment multiplier nos intérêts et les rendre présents à travers l'étendue de la République? C'est justement en occupant l'espace national par les entreprises nationales, les entreprises congolaises. Et lorsque un intervenant dit « notre problème est que nous ne produisons pas », mais justement parce que nous ne sommes pas encore organisés en économie, comment nous voulons produire lorsque nous n'avons pas de banque qui nous finance? C'est un problème. Il faut que l'État, au moins que l'État... Pourquoi l'État a-t-il tué la BDP, la Banque du Peuple, la BCCE? Pourquoi l'État s'est-il retiré du capital des banques? pourquoi. Nous avons besoin des banques pour financer les nationaux, parce que le problème entre les banques et l'entrepreneuriat national, c'est une question de confiance, et même parfois d'ailleurs, une question de piège.
Michel, une curiosité, quand bon nombre d'économistes aujourd'hui évoquent le Congo comme un État sans budget, je crois qu'au regard de tous ces rapports, l'ICOCO et tant d'autres, finalement, on tend vers cette conclusion-là qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de budget.
Je vous ai déjà répété que M. Adolphe Mouzito ne doit pas dire des choses comme ça, reprocher à Matata ce que moi je lui ai reproché quand il était ministre du budget et premier ministre.
Mm-hmm.
Je lui ai répété la même chose et il faisait la sourde oreille. Ce n'est pas le bon moment pour lui de dire aujourd'hui que maintenant il a compris que son état sans budget. Depuis longtemps, je lui ai dit, dès qu'on a nommé ministre du budget, j'ai dit à M. Mouzito que je ne pouvais pas être directeur de cabinet d'un ministre de 1,2 milliard de dollars comme budget de l'État congolais alors qu'il mérite d'avoir 50 milliards. Il m'a dit que c'était impossible, de la bouche de Mouzito. Et je lui ai dit, je ne travaillerai pas pour un budget chez lui. Mais aujourd'hui, c'est le même Mouzito qui revient pour dire aux gens que le Congo est un État sans budget. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est maintenant qu'il a compris les choses, mais c'est une réalité en plus. Mais c'est ce qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps. Pourquoi c'est quand on n'est plus en fonction qu'on comprend les choses? Quand on est là, on ne comprend pas. Il y a un problème là aussi. Donc ça veut dire que les gens qui gèrent la nation ont un problème de vérité, de sincérité par rapport au peuple. Il ne gère pas parce que.
Alors, à quel niveau aujourd'hui, Michel, à quel niveau aujourd'hui la RDC, c'est un État sans budget?
Pardon?
Quels sont les éléments qui déterminent ce que vous disons, qui confirment ou qui affirment vos allégations? Quand vous confirmez que c'est une réalité, que c'est la RDC, c'est un État sans budget.
D'abord, il faut savoir que le budget, c'est l'expression chiffrée d'un programme du gouvernement. Un gouvernement qui se met en place avec son projet de société aligne des objectifs qu'il doit atteindre. Et ces objectifs quantifiés constituent ce qu'on appelle maintenant le budget de l'État. Ça, c'est clair. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez le budget que l'État congolais se dote et ou exécute, il n'a aucun rapport en réalité avec les objectifs prioritaires qu'il avait alignés comme étant son projet de société, comme son programme économique. Ce n'est pas la même chose. Vous allez vous rendre compte que l'État exécute des dépenses qui n'ont jamais été prévues, même au budget lui-même. On ne les a pas connues. On est suffit de voir ça comme ça. Première réponse. Deuxième réponse. Mais ce que nous avons, on venait de le dire, le budget de l'État n'est pas un budget parce que rien que par son niveau, par sa hauteur, par son volume, par le niveau de ses recettes, ça ne sert à rien. C'est un système, c'est une économie de cueillette, un simple saupoudrage de petits ramassis, des ressources de gauche à droite qui, à la limite, ressemble à une simple, j'allais dire, rationnement de la population, rationnement des entreprises. Un budget a des principes. Des principes d'efficacité, des principes de justice, etc. Il y a des principes pour qu'un budget soit effectivement un budget. Ce sont des trucs, ça s'enseigne même à l'université. Mais ce que nous avons, nous, c'est juste une simple formalité statistique. On aligne des chiffres, on appelle ça budget. Il n'y a pas de budget là-dedans parce que ça ne répond à aucun besoin d'une population, d'aucune province, à aucun besoin essentiel pour l'existence d'une nation, pour l'existence d'un État.
Voilà, ce qui occasionne que disons, tous ces détournements que dénonce actuellement la LICOCO. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Okapi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Kiuba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alain, vous êtes à Guadeloupe. Bonjour Alain. Alain, vous êtes à Guadeloupe? Voilà, Alain, vous êtes en direct, Alain. Alors, on va prendre d'abord Pichou, en attendant que la ligne d'Alain s'améliore. Pichou, vous êtes avec nous à Kulungongo. Bonjour, Pichou.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, Pichou.
Bonjour, J.R. En fait, j'allais intervenir pour essayer un tout petit peu de compléter le monsieur qui me précède un tout petit peu là. En fait, pour une gestion comme la nation, comme le nôtre, il serait souhaitable, comme on dit, pour redresser une entreprise, il faudrait d'abord payer les gens très bien. Vous voyez, donc au moment où nous sommes là, il y a des problèmes internes au niveau des entreprises qui produisent. Alors, il y a des infos qui nous échappent aussi. La contribution doit essayer de reconstituer sa forme de sorte que les infos qui nous échappent, parce que la ville comme le Canada, les pays comme le Canada, se développent à partir de la contribution. Les impôts que les gens payent donnent accès aux constructions de routes, aux constructions des immeubles, des infrastructures. Mais, à notre grande surprise, ici dans notre pays, on ne s'occupe même pas de ça. Comment est-ce que le budget de l'État doit augmenter? L'Angola, ici, qui est trop proche ici, l'Angola a un budget de plus de 50 milliards de dollars. Il sort de la guerre. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre un pays qui sort de la guerre comme l'Angola, 30 ans de guerre, mais aujourd'hui, nous autres, ici, au Congo, nous avons qu'un budget de 10 milliards. Ça ne se comprend pas. Et nous voulons que le président de la République, qui nous écoute en ce moment, si possibilité il y aura, d'essayer un peu de mettre en œuvre un mécanisme. Et ce mécanisme-là va nous aider à développer notre budget et à le rendre un peu plus attractif. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui échappent à l'État, mais l'État n'est pas à mesure de créer des audits pour essayer de récapituler cet argent qui nous échappe. Donc, voilà un tout petit peu ma contribution au niveau de ce dossier que vous êtes en train de développer.
Merci beaucoup, Pichou, d'avoir appelé depuis Lungongo. Là, nous sommes au Congo central. C'est vrai, vous souhaiterez qu'on puisse travailler sur un mécanisme pour rendre beaucoup plus notre budget plus efficace et aussi nous donner l'occasion de pouvoir avoir un instrument de contrôle afin de lutter contre ce genre de détournement dont dénonce aujourd'hui la LICOCO. Alors, Urbain, et Ilunga, réaction par exemple par rapport à ces mécanismes, quel peut être le mécanisme et les dispositifs pour rendre encore notre budget plus efficace par rapport au principe du budget?
Ok, merci beaucoup. Je vous réponds tout de suite. Je préfère pas donner d'abord un élément ou deux même. Je reviens là où je parlais de la conversion de, parce que je pense avoir été mal interprété. La conversion de richesses potentielles en réel ou qui sont déjà réelles comme M. Michel le pense. Je suis aussi d'accord avec lui, hein. Je suis aussi d'accord avec lui. J'ai dit la conversion de richesse en réel, parce que ça doit devenir
palpable.
Voilà. Lorsque c'est encore naturel, donc là, c'est encore potentiel. C'est potentiel. Alors, cette conversion-là ne se fait pas par une ordonnance présidentielle. Ce n'est pas de façon spontanée. On dit que voilà, nous approprions de ce qui est notre. Non, c'est par. Hein, c'est par de ressources que nous devons investir. C'est au travers de l'investissement que nous pouvons convertir nos richesses potentielles en réel. Mais l'investissement nécessite de ressources, mais que nous n'avons pas. Nous parlons notamment de la mobilisation de faible mobilisation de ressources. Voilà. Mm-hmm. Nous parlons de la mobilisation qui est pratiquement faible. Nous n'avons pas de ressources nécessaires pour la conversion de investissements. Et d'où même l'une des recommandations de l'honorable Mouzito, il pense que nous pouvons tendre la main parce que le financement de l'économie, tous nous le savons, est à la fois interne et externe. Lorsqu'on a ces ressources, on peut financer, on peut faire des autofinancements, mais lorsqu'on a de l'impasse, on peut tendre la main à l'extérieur. Le gouvernement a eu des prétentions avec son programme quinquennal pour dire qu'il va mobiliser de recettes qui vont permettre de résoudre le problème congolais. Mais jusqu'ici, nous sommes au-delà de 3 ans. On n'est même pas à la moitié de la promesse faite.
Alors, vous pensez comme les autres qu'il faut, il va falloir réduire les trains de vie de toutes les institutions budgétivores dont on parle. Ça va résoudre ce problème de détournement parce que le fait que la part, la grande part revient aux services généraux de l'administration publique, 39%, et puis bon, une grosse part pour les trois institutions, et ça ne peut qu'occasionner des détournements.
Effectivement, il y a un problème, un sérieux problème de déséquilibre dans la répartition de recettes à caractère national. Donc, ceux qui pensent aussi comme ça, bon, je ne leur donnerai pas tort. Moi, je pense que ceci d'avis qu'il y a vraiment un problème de désarticulation dans la répartition de recettes. Il y a un déséquilibre, une inégalité. Et donc, cette égalité ou cette désarticulation ou déséquilibre peut s'appréhender d'abord à travers même la répartition de recettes à caractère national entre les pouvoirs centrales, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Notre constitution recommande c'est que 40% de recettes nationales soient rétrocédées aux provinces, que le 10% vaille dans la caisse des péréquations, mais ce qui n'a jamais été fait. Notre recommandation ne donne que 50% de recettes.
Ça pourrait être une solution, les transferts exclusifs, des compétences exclusives donc aux provinces. On va prendre quand même un auditeur qui nous a réjoui également, Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, cher, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, Félicien.
Oui, moi je voudrais vous dire que dans notre pays, s'il n'y a pas encore cette volonté politique de mobiliser les recettes pour les trésors publics afin de résoudre les problèmes de développement de ce pays. Parce que c'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Quand vous voyez tout ce que nous avons comme ressources et quand nous voyons tout ce que nous avons comme tracasserie dans les régies financières, et la douane, la plus chère de l'Afrique ou et pourquoi pas du monde. Et quand vous avez la DGI, comment on est tracassé la DGA et la multitude de taxes que nous avons pour un petit détachement que vous avez, vous pouvez compter plus de 50 taxes. C'est pas vraiment ce problème qui se pose. C'est le problème que nous avons, c'est le problème de volonté politique. Les gens ont trouvé que nous devons continuer avec ce système où ceux qui vont en politique, ceux qui sont dans les institutions, doivent s'enrichir au détriment de la République. Et ce système-là est entretenu et ça continue comme ça. Et parce que personne ne reproche rien à personne. Vous voyez les trains de vie de ceux qui sont qui devaient mobiliser les recettes à la DGDA, DGI, DGA et toutes les régies financières. Personne ne sait expliquer ça, mais on le sait. Et tout le monde trouve normal. Et ceux qui gèrent dans les ministères, dans les entreprises publiques, ils peuvent voler et piller. Il n'y a pas de problème. C'est comme sur la Deuxième République, on a des problèmes que quand on s'attaque à la politique de Mobutu, mais pas quand on s'attaque à la corruption ou au pillage, au vol des ressources du pays. Donc ce système-là, tant qu'il ne changera pas, nous ne pouvons pas continuer à parler de répartition équitable des revenus ou de mobilisation des recettes. Personne n'en veut, donc nous devons nous battre. Et pour que nous puissions arriver à cette situation où tout le monde veut que l'intérêt supérieur de la nation soit prioritaire. J'ai entendu le président de la République le dire dans son discours, on le dit toujours, on ne tente pas de mesures pour que nous puissions éradiquer la corruption, pour que nous puissions combattre tous ces antivaleurs. C'est ça qui nous bloque, c'est ça qui récupère le pays des richesses illicites. On en fait, personne ne s'en occupe, nulle part la justice, alors que ailleurs on demande des comptes à quelqu'un comment il est devenu riche brusquement, comment sans histoire, sans passé, et sans avoir des parents riches, et vous venez un matin, 6 mois après, vous êtes riche. Et donc ici chez nous, c'est érigé un système de gouvernement, un système de gestion. Et c'est un problème sérieux.
Donc, Félicien,
vous pouvez nous en sortir. Même il faut qu'il y ait un regain de fierté nationale, de patriotisme, l'amour de la patrie. Sinon, on ne s'en sort pas.
Alors, merci beaucoup, Félicien, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On va prendre Patrick qui est à Mbujimayi. Patrick, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Patrick. Quel est votre avis?
Bon, en tout cas, moi je dirais que c'est au Congo, nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème d'hommes, pourquoi? Parce que, si nous remarquons le budget que nous avons d'abord, le budget national, cela ne reflète en rien les réalités que nous avons au Congo. Je vais prendre juste un simple calcul. Le budget de 8 milliards quelques, et 8 millions quelques. Là, nous essayons de diviser cela par le nombre de Congolais que nous avons.
Le nombre d'habitants,
sans doute. Vous allez prendre compte qu'un Congolais doit vivre avec $120 par an. Et vous allez remarquer que les Congolais ont des chaussures de $150, les vestes de $5000, de $500. Donc, tout cet argent là-bas, ça vient d'où? Donc, au Congo, quand quelqu'un vole et qu'il détourne, ce qu'on fait, il est en train de pouvoir monter en grade. C'est comme en Boujimaï, nous avions quelqu'un qui a détruit la Miba qu'on a connu. Il s'est tapé une femme de $1 million. Et aujourd'hui, il est quelque part, donc, en train de faire sa vie politique. Donc, on se pose des questions. C'est que quand quelqu'un vole ou détourne, il faut qu'il monte en promotion pour que nous puissions voir combien les Congolais sont vraiment bons et ils ont gagné leur vie.
Est-ce que vous pensez, Patrick,
qu'ils puissent avancer dans ce sens-là?
Alors, quelle question proposez-vous?
C'est vraiment fanfaron et qu'on nous dise que nous avons un budget de tel et d'autant et du moment où donc, le social des Congolais ne peut être amélioré.
Alors, on va passer aux solutions, Patrick. Que pensez-vous, est-ce que vous pensez que pour résoudre ce problème de détournement et aussi renforcer la mobilisation des recettes, il faut d'abord commencer par casser ce déséquilibre qui existe dans la répartition inéquitable des ressources publiques entre différentes institutions, notamment réduire les trains de vie de ces trois institutions budgétivores?
Oui. Et puis, il faut d'abord réduire cela. Et en plus de soi, qu'il n'y ait pas l'impunité. Parce que c'est l'impunité qui fait que toutes ces choses ici continuent jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup, Patrick. Rocky, vous êtes dans le Bandundouville. Bonjour, Rocky.
Oui, bonjour, J.R. Bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole, Rocky.
Oui, selon moi, ne faut même pas parler du budget parce qu'en RDC, nous n'avons pas un budget. Il faut peut-être rejeter ces mots-là, budget. Parce que vous savez, chaque lundi, on voit sur les chaînes de télévision, les ministres en train de parler de Troïka, inflation. Bon, je ne suis pas économiste pour mieux savoir tous ces mots-là.
Non, les cadres macroéconomiques, stabilité.
Les cadres macroéconomiques, ce voilà. Sont les chiffres que le ministre est en train de rêver chaque nuit. Il vient et il nous présente. On ne voit rien. Les chefs de l'État même disent qu'il y a eu de l'augmentation des taux d'inflation. Bon, je ne suis pas là. J'espère bien qu'il y a eu quelqu'un qui a été chargé pour la corruption, chargé de ministre de Justice. Oui. J'espère bien que ce monsieur-là sera là pour être payé à la fin du chaque mois, mais il ne saisira aucun dossier de la corruption. Dernièrement, il y a le ministre Bongongo a dénoncé le détournement au niveau d'un ministère quelconque. Qui est-ce qu'on a arrêté? On a arrêté personne.
Merci beaucoup, Rocky. Vous êtes revenu encore sur le cas d'impunité. Faudrait qu'on travaille là-dessus pour arriver finalement au résultat. Merci beaucoup. Alors, Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, je salue aussi nos invités qui sont sur le plateau avec vous.
Alors, quel est votre avis après avoir écouté les uns et les autres? D'aucuns ont soutenu qu'aujourd'hui, les budgets du Congo, c'est un budget fiction. C'est ce qui occasionne d'ailleurs ce cas de détournement, parce que qui contrôle qui, on ne sait pas. La Likoko qui dénonce la faible mobilisation des recettes et également la répartition inéquitable des ressources publiques entre différentes institutions publiques. Ce rapport a été soutenu par les uns et les autres qui ont parlé avant vous. Maurice, quel est votre avis?
Oui, le budget est réellement fictif, il est en même temps illusoire, irréaliste. Vous savez, lorsqu'on présente un budget évalué à 10 milliards pour un pays comme Michel Sommer le disait, de près de 80 millions d'habitants, 2 350 quelque chose kilomètres carrés, on présente un budget de 10 milliards ou de 8 milliards. En réalité, ce n'est pas ça le budget réel. Hein, c'est le budget. Le budget est de 40% et réalisé peut-être à hauteur de 37 à 40%. C'est-à-dire que ce pays mobilise à peu près 4 milliards, plus ou moins, je dis même, moins que ça, de 4 milliards de dollars américains. Et lorsqu'on nous présente un budget de 8 milliards, et c'est juste pour le taux satisfait économique lorsqu'on vante le cadre macroéconomique. Or, le budget de Kuluna dans ce pays, les Kuluna en cravate, c'est 15 milliards de dollars américains par an. Et hier, j'étais en fait très satisfait, avant-hier, de suivre M. Luzon Obama, il s'est plaindre dans un média de la place, déclarer que la justice, en fait, il utilisait une action de la justice congolaise. Il vous souviendrait que ce monsieur avait déposé une plainte devant le parquet général de la République où il indexait quelques gouverneurs, certains gouverneurs dont les noms étaient cités, donc par RFI, qui s'était procuré de ce document. Alors, notre banque disait que depuis le 23 juin qu'il avait déposé cette plainte, où il indexait certains gouverneurs des provinces et hauts fonctionnaires de l'État, qui ont détourné des rétrocessions des provinces. Et jusqu'à ce jour, le monsieur s'est plaigné et s'est dit que non, je constate comme vous que rien n'a été fait, ça fait plus de 6 mois que cette plainte est sur la table du parquet général de la République. Alors, nous pouvons comprendre que celui qui parlait de l'impunité de tout à l'heure, il a bien raison sur tout le plan, parce qu'on ne peut pas admettre que ce pays où les gouvernants se plaignent de la corruption, de l'autre côté, les gouvernés se plaignent, est-ce qu'on ne peut pas admettre cela dans un pays qui devient un pays d'état de droit? Alors, qu'est-ce que nous constatons? Le budget qu'on nous présente dans la répartition, les trois institutions que vous qualifiez de budget qui vont vous prennent 70% du budget. Et si vous avez suivi les débats, pourtant l'édition de comptes pour l'exercice 2015, comment le budget a été
exécuté,
vous allez comprendre que en dehors des crédits alloués pour le fonctionnement de ces trois institutions, plutôt du président de la République et du gouvernement, ces deux institutions ont excellé dans un dépassement budgétaire de plus d'un milliard de dollars américains. Et je ne sais pas comment ça peut se passer dans ce pays où deux institutions
voilà. Merci beaucoup Maurice, parce qu'il y a d'autres trucs qui attendent quand même sur la liste. Emmanuel est à Ilunga, Emmanuel Ilunga à Paris. Maurice, bonjour, merci. Hein. On prend Emmanuel qui est à Paris en France. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour, mes chers amis, bonjour à tous les auditeurs fidèles de la Radio Pratique. Alors, je vois là que le sujet passionne. Effectivement, vous savez, si je rentre juste dans le vif du sujet, c'est que il faut que nous sachions que le premier décret divin qui vient instituer, c'est la justice. Lorsqu'il créa, il trouva que sa création était bonne. Donc, ça veut dire qu'il a mesuré entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, la justice. Lorsque dans un pays, la justice est en panne, rien ne peut marcher. Et la justice résulte de la politique de l'État, d'abord, comme la part du sommet, avec beaucoup de rigueur et d'impartialité. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, les opérateurs économiques sont découragés, y compris la population est découragée, parce que il n'y a pas de justice sociale. La justice n'existe pas, il y a l'impunité totale, les autorités détournent les moyens de l'État. Ils ne sont pas sanctionnés. Et donc il est normal que les gens ne fassent pas confiance aux institutions, compte tenu du fait que le résultat escompté n'est pas là. C'est vrai que théoriquement, on peut parler à notre population.
Voilà. Emmanuel, nous vous gardons encore en ligne, il est temps de revenir à Michel Sommoué. Michel Sommoué?
Oui, Gérard.
Voilà, vous venez de suivre, les auditeurs. Quelle est d'abord la réaction, votre réaction?
La première réaction, je voudrais d'abord aider Patrick, qui a été intervenu du mouvement, et pour lui dire qu'il faut quand même qu'il fasse la part des choses. Lorsque vous dites que notre budget de 8 milliards pour 120 charges par habitant, en réalité, il est plus. Le budget, c'est 80 dollars par habitant en aide au Congo. Ailleurs, vous allez à 500 dollars, à 1000 dollars, etc., c'est pas grave. Mais il ne faudrait pas qu'ils disent que parce que le budget est de 80 dollars par habitant, un citoyen ne peut pas toucher de 150 dollars.
parce que le budget, ça, c'est pour l'État. L'État est un agent économique, comme l'entreprise, comme le ménage.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Michel. Vous commencez, on commence un tout petit peu à vous perdre. Bon, les temps que la réalisation arrange. Alors, Urbain,
bien bah, aussi. Moi, je suis en ligne, moi, je vous suis très bien. Je sais pas si vous me suivez maintenant.
Voilà, maintenant, c'est très bon. Allez-y, allez-y.
Oui, je disais que je voulais d'abord lever un petit amalgame avec Patrick qui parlait du budget oui. de 80 ou 120 dollars par habitant, alors que les gens ont dit 150 dollars pour dire qu'il faut faire la part des choses entre les revenus de l'État qui est dans lequel le budget et les revenus des particuliers, des ménages et des entreprises. L'État est un agent économique comme les autres qui a aussi son argent, qui a ses revenus, comme les entreprises ont leurs revenus, leur argent et leur argent, les ménages également. Donc, on peut comprendre aisément que dans un pays où le budget de 80 dollars par habitant, qu'il y ait un habitant qui a un revenu qui lui permet de s'offrir du sud de 150 dollars, ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, je voudrais dire quelque chose qui est important et qui va peut-être créer beaucoup de malentendus, mais vous allez me permettre. Lorsque nous fustigeons le détournement au niveau de l'exécution des dépenses publiques, mais nous devons prendre en ligne de compte que le fait. La cause principale de ce détournement, c'est l'insuffisance des recettes. Ça, on ne doit pas perdre de vue. Et l'insuffisance des recettes, parce que l'impôt au Congo, qui est la principale source des recettes dans notre pays, ne remplit pas toutes les conditions, ne réunit pas toutes les propriétés d'un impôt. Ça, c'est important aussi à dire. Alors, il se fait que les gens se trouvent dans une situation où ils sont condamnés à pratiquer l'injustice, c'est-à-dire la répartition inéquitable des revenus. Et si je suis chrétien, je dirais l'injustice part même de Dieu, parce que tous les arbres n'ont pas la même taille dans la forêt, dans la nature, et tous les arbres ne sont pas irrigués de la même façon, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on donne à chacun des revenus qui lui permettent de ne pas envier l'autre. Parce que le fait qu'un petit flacon ne peut pas envier la grande dame Jeanne, comme on dit, comme disait Saint Augustin, quand tous les deux sont remplis, chacun a besoin de ce qui lui revient proprement. Mais le problème est que chez nous, si vous n'avez pas un budget, comme on le dit, c'est parce qu'il y a déjà un problème aussi sur la nature de notre État. Si vous voulez avoir un budget, il faut commencer par avoir un État. Parce que le budget est un instrument de l'État. Merci. L'État lui-même est voilà, en quelque sorte.
Michel, on a pris assez de temps. On va accorder également la parole à Urbain Ilunga qui aura deux minutes. Et puis, on va terminer également avec Emmanuel Ilunga. Alors, Urbain Ilunga, réaction.
Ma réaction, je réagis par rapport à M. Michel. Si j'ai juste un élément aussi très important. Lui, indexe insuffisant, ce budget par rapport à la faiblesse des impôts, tout ça. Moi, j'indexe, je suis d'accord avec lui, mais ceci fonctionne de la faiblesse de nos investissements. Donc, il y a des dépenses des investissements qui connaissent l'éviction par les dépenses de fonctionnement, comme on l'a dit, ces institutions budgétivores. Hein. Donc, tout voit, j'ai parlé de la mauvaise répartition sur le plan de représentation, donc j'ai parlé du gouvernement central, mais aussi entre institutions. Mais vous verrez que parmi ces institutions, vous verrez que c'est plus la prise. Évidemment, c'est ainsi que le gouvernement qui prend, qui consomme les
dépenses. Oui.
Donc, les dépenses de souveraineté prennent le dessus sur les autres, prennent le gros morceau. Et donc, il y a des réductions de dépenses
économiques. Qu'est-ce qu'il faut
faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, il faudrait équilibrer les choses. D'abord, il faudrait qu'il y ait l'existence du budget de l'État. Je donne une petite lumière là-dessus. Il y a ceux qui pensent que l'existence du budget est aperçu par son caractère dérisoire, mais moi je pense aussi, c'est aussi aperçu par rapport à l'inexistence du budget de l'État comme budget de l'État. Budget de l'État, c'est un document consolidé qui prend en charge trois sortes de budget, c'est-à-dire le budget du pouvoir central, le budget de province et de GTD. Et le budget depuis 2012, nous n'avons pas le budget de l'État. Les budgets que nous avons en RDC, c'est la loi de
finances. Donc il faut commencer par consolider ce budget, ça pourrait résoudre ce problème parce que c'est vrai un tableau de bord.
Oui, un tableau de bord.
Alors, Emmanuel, vous êtes à Paris? Emmanuel,
oui.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous, Emmanuel?
Très bien, je vous écoute, là, je vous suis.
Alors, Emmanuel, en conclusion pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Oui, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que le budget, que ce soit le budget de l'État, ou les dépenses de l'État, ou le budget de l'État, tout cela est lié au programme, et avoir la mise en place du budget pour l'année à venir. Donc à ce jour, nous supposons que le gouvernement a un programme et c'est à partir de son programme des dépenses qu'il élabore son budget. Et si, en cours de route, le budget est mal réparti, c'est la faute d'abord au gouvernement et ensuite à ceux qui sont censés dépenser cet argent au profit de l'ensemble de la population. Mais à ce jour, au-delà de ça, même le peu de budget que nous avons est détourné également. Et vous le voyez très bien. Et certains ministres, une fois nommé, deux jours après, il a une villa, il a une maison en or. Et pareil.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel d'avoir appelé de Paris. Nous disons également merci à Michel Sommouet qui a été également notre invité en ligne. Nous allons dire merci également à Urbain Ilunga, analyste des questions économiques que nous avons reçu aujourd'hui dans ce studio. À vous tous, chers auditeurs qui avez participé à ces débats, nous vous remercions infiniment. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.